Les deux prochaines émissions de Tracé ensemble seront consacrées à la parabole du filet, telle que nous le lisons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 13, les versets 47 et 48, suivi du commentaire d'Alphonse Maillot. Et le culte de maison du 15 novembre chez Lisbeth se poursuivra par les interventions des uns et des autres sur ce même thème des paraboles. Seigneur, nous voici réunis devant toi pour entendre ta parole. Donne-nous ton esprit afin que nous saisissions cette parole que tu nous offres aujourd'hui à travers le commentaire du pasteur Maillot. La lecture biblique, elle se résume à deux versets dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, les versets 47 à 48. Matthieu 13. 47 à 48.
Sur les paraboles du royaume.
Oui, c'est toute une série. Hein. Alors, justement, ces paraboles, Jésus en a fait, presque son pain quotidien, parce que c'est avec des paraboles qu'il s'adressait aux foules et qu'il les instruisait. D'un autre côté, il nous dit, oui, les paraboles... Elles sont difficiles parce que...
Ils ont toujours tout compris, tu crois.
Ils n'ont pas... Justement, ils parlaient en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. J'ai trouvé ça bizarre parce que... N'empêche qu'avec les paraboles du royaume, Jésus a eu quand même des difficultés parce qu'à un moment donné, il s'est dit, mais comment est-ce que... À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? Alors, des fois, il manquait peut-être un peu d'inspiration, et puis voilà. Et puis là, aujourd'hui, on va entendre la parabole du filet. Alors, c'est donc en Matthieu 13, au verset 47 et 48. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse de toutes sortes. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied pour rassembler ce qui est bon dans des vases et on jette au loin tout ce qui est dégoûtant. Alors, l'une des questions que l'Église se pose dès les origines est de savoir où se trouve l'Église. Qui est-elle? Il y a du narcissisme dans cette question, mais d'un autre côté, elle paraît légitime. L'Église aimerait pouvoir, comme les géographes le font avec des atlas, de dessiner une frontière, fût-elle en pointillé, afin de savoir avec au moins un lambeau de certitude là où elle est, là où elle n'est pas, où elle n'est plus. Ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, ceux qui sont à elle et ceux qui n'en sont pas. Car il est très gênant de ne pas savoir qui on est et où on est. C'est pourquoi la plupart des églises protestantes, depuis 50 ans, ont étudié directement ou indirectement 3 ou 4 fois, ou même plus, la notion de membre de l'Église. Et cela menace de revenir sur le tapis. Une Église parlait de membres responsables, sans avoir la logique ni le courage de parler de membres irresponsables. Il y eut aussi des membres rattachés, sans parler des membres détachés, des membres cotisants, pourquoi pas membres honoraires ou bienfaiteurs, Et moi, je me rappelle encore très bien qu'on a eu des discussions sur les distancés. Les distancés et les moins distancés, mais bon, ils faisaient partie de la paroisse. Les sauvés, ça aussi, Serge nous en a parlé une fois. Et puis, dans d'autres religions, il y a les mécréants qu'il faut absolument éradiquer, et les insoumis ou les soumis. Dans le même ordre d'idées, chaque responsable paroissial reçoit fréquemment des statistiques destinées à cerner nos paroisses et leur composition. Et cela, probablement, ira en s'amplifiant depuis qu'une nouvelle science est née et qui, pour certains, remplace la loi et les prophètes, à savoir la sociologie religieuse. Malgré ma méfiance congénitale envers les statistiques, je reconnais bien volontiers que ce travail est nécessaire. L'Église n'est pas céleste. Société humaine, elle peut et doit utiliser la sagesse humaine, même celle de la sociologie. Il est bon que l'Église suive de près les grands mouvements de population et, dans une certaine mesure, il lui faut savoir prévoir demain. Mais c'est ici qu'il faudra mettre quelques conditions à ces statistiques, à ces comptes et ces prévisions. Premièrement, l'humour. L'humour peu fréquent. L'humour qui ne confond pas les comptes avec la vérité et la prospective avec le royaume de Dieu. L'humour qui sait que Jésus-Christ se joue souvent de nos statistiques et de nos prévisions, comme il s'est joué du recensement et de l'édit de César Auguste, et comme le Seigneur avait mis en pièces les comptes du roi David quand il voulut dénombrer ses paroissiens. L'humour qui sait que malgré les nombreuses colonnes et les nombreuses rubriques de nos papiers, il ne peut jamais y avoir une qui aurait pour titre « Intervention de Jésus-Christ ». Pourtant, ce serait bien la principale. L'humour qui sait se servir de la sociologie sans s'asservir à la fatalité. L'humour qui sait que le dernier mot ne doit jamais être laissé aux chiffres, mais aux hommes. Car le chiffre est terrible, implacable, imparable, infaillible, net, il est limite. Il ne sait ni rire, ni espérer. Et deuxième condition, le multidinisme. Comptons, j'y consens, mais le plus largement possible. Définissons les frontières à l'Église, non seulement avec un pointillé très aéré, mais encore en le reculant jusqu'à l'extrême possible. Car nous n'avons pas le droit de trier vraiment. Il nous faut tirer tout ce qui est dans le filet, même les méduses, les poissons torpilles, les vives, même les algues et le goémon, même la vase, car nous ne nous y connaissons pas vraiment en poissons. Qui deviendrait aller voir que la rascasse et la terrible vive sont indispensables à une succulente bouillabaisse? Qui se douterait de la finesse de l'araignée de mer et de ce poisson hideux, mais bien nommé le Saint-Pierre? Qui aurait pensé, devant tel catéchumène ignare et indifférent, qu'il serait là, aujourd'hui, en train de tirer le filet avec nous, et plus fort que nous? Qui aurait pensé que cette torpille, au passé trouble comme la marée noire, deviendrait la plus vivante des paroissiennes? Enfin, qui sait, parmi nous, ce qui se passera sur le rivage quand on y sera? C'est pourquoi ne comptez pas sur l'auteur de ces lignes pour vous donner une définition précise de l'Église. Ne comptez pas sur lui pour vous dire où elle est et où elle n'est pas, qui en est et qui n'en est pas. Ne comptez pas sur lui non plus pour transformer le catéchuménat en gare de triage, ni pour favoriser les regroupements paroissiaux où les colins se retrouvent toujours entre eux, ou les thons et les saumons entre eux, tandis que les pauvres goujons en seraient réduits à toujours côtoyer les misérables verrons. Là encore, comprenons bien que ce n'est pas que ces regroupements soient sans valeur, encore moins qu'il soit néfaste, mais trop répété et érigé, comme ils sont aujourd'hui, en issue salutaire aux situations contemporaines, ils deviennent fatalement l'un de ces clivages, l'un de ces tris qui nous sont et seront interdits jusqu'au jour dernier. Notre premier travail n'est pas de nous regrouper par affinité, par espèce, par classe, par goût, par race ou par situation, mais de tirer ensemble, tous ensemble, le filet du royaume, et de nous souvenir que le seul regroupement indiscutable, sans équivoque, restera celui du culte. Une fois cela bien admis, on peut faire les groupes que l'on veut. Et puis, curieusement, on arrive au ministère pastoral, car il me semble, et que les collègues qui ne sont pas d'accord me pardonnent, qu'un pasteur ne peut être que multitudiniste. Je veux dire par là qu'il doit se refuser à ce qu'une minorité, fût-elle sensationnelle, intelligente et même généreuse, oriente à elle seule la vie d'une église. Peut-être tenons-nous à la caractéristique la plus profonde du ministère pastoral, veiller à ce qu'aucun rasoir, aucune frontière, aucune définition, aucune cloison, aucun principe, aucune théologie n'amène les uns à se croire brebis et les autres à se prendre pour des boucs. Ceci pour qu'aucun homme, aucun, ne puisse jamais se croire exilé du filet, disqualifié devant un royaume qui lui serait fermé. Jamais. C'est peut-être pour avoir oublié ce fondement du ministère que certains éprouvent ce qu'on a appelé le malaise pastoral. Et pour en finir, je ne résiste pas au plaisir de vous donner la seule définition du membre d'Église qui m'est parue correcte, à part une définition qui partirait du baptême. C'est un pasteur, un certain Jacques Bost, qui l'a donné jadis dans un synode national où elle fit pchit, mais hélas, ne fut pas retenu. Le membre d'Église est celui qui croit plus ou moins en Jésus-Christ. Et il élargissait les bras en croix pour mesurer le plus ou moins. Et qui lit plus ou moins sa Bible. Oui, plus ou moins, mais tous dans le même filet, sans qu'il en manque un seul. Voilà. À vivre avec toi, une vie nouvelle.